Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous regardez le podcast officiel des Cahiers du Catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse l'émission phare de la WWE Monday Night Raw. Avec moi cette semaine pour décortiquer le show du 1er mai 2017, pas moins que le patron du supplément, le supplément SmackDown, notre ami Yerem. Comment vas-tu Yerem ?
Écoute, bah, je vais très bien, merci à toi, ça fait plaisir un petit peu de shake-up pour les chroniqueurs, les animateurs, je vois un petit peu, c'était l'occasion de regarder un Monday Night Raw.
Voilà, un petit regard neuf un peu sur le show, je suis très heureux de travailler avec toi.
Plaisir partagé.
Bon, on va partager. Y aller, bah, écoute. On va y aller vite fait parce que sinon on n'aura jamais fini. Alors on a un programme chargé hein. Cette semaine ça se passait à Sacramento, ce bon vieux Monday Night Raw. Alors au programme hein, demandez le programme, on fête la nouvelle championne de la division féminine, on a aussi Dean Ambrose qui découvre être multicasquette. Sheamus et Cesaro s'expliquent sur leurs actions. Bray Wyatt se présente à son patron et on va déterminer un nouvel aspirant numéro 1 au titre de champion intercontinental. Voilà ce que nous propose cette émission ce soir. Et ça démarre au milieu du ring avec Alexa Bliss qui est entourée de tout le roster féminin. Donc on a Mickie James, on a évidemment Sasha Banks. On a Emma, on a Dana Brooke, on a Alicia Fox et on a Bayley. Bayley donc qui a perdu son titre face à Alexa Bliss à Payback, hein, puisqu'on est au Raw qui suit le dernier pay-per-view de la WWE Payback. Et donc Alexa Bliss est là et elle nous explique que ce soir elle a décidé de demander à ce qu'on célèbre dignement sa victoire hein, puisque à Payback on lui a simplement soulevé le bras, ce qui est un peu léger hein, pour une victoire historique comme
honteux.
Ouais, honteux exactement. Donc voilà, elle est la première donc à gagner le championnat de SmackDown et maintenant le championnat de Raw. Elle nous explique qu'il y a des catcheuses qui se prétendent la reine. Et bien cette fois-ci, la reine est morte et il n'y a plus qu'une déesse à Raw. C'est elle, la déesse de la WWE. Alors elle décide de remercier un petit peu les gens qui lui ont permis d'arriver au sommet. Donc par exemple elle remercie Mickie James et elle nous explique qu'elle trouve dommage que les contemporaines de Mickie James, Mae Young et la Fabulous Moolah ne puissent pas la voir ce soir. Petite pique hein, sur l'âge de Mickie James. Elle remercie Sasha Banks en expliquant un peu que Sasha Banks elle veut se dénommer la boss, mais bon, c'est pas elle la boss, c'est plutôt Alexa Bliss. Ça s'énerve un petit peu du côté de Sasha Banks parce que bon, Alexa lui explique un peu qu'elle lui a marché dessus pour arriver où elle est. Et Sasha Banks est obligée de reculer, elle marche sur les pieds de Nia Jax. Mais là, elle évite la confrontation en lui lançant des fleurs. Elle explique que toutes les autres catcheuses sont jalouses de Nia Jax. Et là, elle décide de monter enfin sur le podium qui est au milieu du ring. Et elle est en train de savourer sa victoire quand elle se rend compte qu'elle a oublié Bayley. Donc, elle se tourne vers Bayley. Voilà, elle remercie aussi Bayley pour la défaite. Et elle parle des neveux de Bayley qui étaient au premier rang lors de la défaite de Payback et qui pleuraient. Donc elle a dit que ça a failli lui gâcher son moment de célébration, ça a failli gâcher sa victoire. Mais elle a réfléchi, elle s'est dit qu'est-ce que dirait Bayley dans ces cas-là. Bayley, elle verrait toujours le positif. Et donc le point positif dans cette histoire, c'est que désormais les neveux, eh ben, ils ont eu un vrai rôle modèle sous leurs yeux en la personne d'Alexa Bliss. Alors là, c'en est trop pour Bayley qui se jette sur Alexa Bliss et plus précisément sur le podium. Elle retourne le podium. C'est la bagarre générale.
Cat fight.
Ça se tape dans tous les sens. Et c'est la coupure pub. Et évidemment, on revient et il y a un match qui a été booké. En gros, les gentils contre les méchantes. C'est un match à 8. D'un côté, Bayley, Sasha Banks, Dana Brooke et Mickie James. Et de l'autre, Alexa Bliss, Nia Jax, Alicia Fox et Emma. Donc c'est un match bien complet, assez long. Tout le monde a le temps de dérouler un peu son catch, hein, chacun de son côté. Vraiment très sympa. Après, pour vous faire pour vous le faire bref, c'est la victoire des méchantes. Alexa réussit à faire le tomber sur Bailey après un enchaînement fourchette dans les yeux et DDT, hein, puisque désormais c'est le DDT, sa prise finish. Donc voilà un premier segment qui établit Alexa Bliss et qui nous offre un bon match complet et une belle victoire d'Alexa. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener, mon bon Yerem?
Alors, c'était un petit peu long quand même la séquence où elle allait parler à chacune d'entre elles, mais pour autant, c'est un bon signe, un bon signal qui est envoyé là de confier à Alexa Bliss l'ouverture de Raw. Elle a quand même fait quasiment tenu de 5 à 10 minutes de promo toute seule, hein, et elle l'a bien fait avec tout le roster qui faisait les statues de cire, là. Donc Alexa Bliss, super promo. J'aurais bien aimé, moi je verrais bien une petite association Alexa Bliss Nia Jax, parce que je trouverais l'interaction assez intéressante avec cette grosse méchante, la grande méchante louve, hein, qui s'associerait avec le petit chaperon rouge un peu bitchy comme ça.
Ça serait pas mal avec un garde du corps, en effet.
Ouais, ce serait une association de circonstances, hein, avec toujours la menace de Nia Jax, évidemment, qui n'aurait qu'une bonne occasion, qui n'attend qu'une chose, c'est une bonne occasion de la bouffer, hein, évidemment, mais ouais. On a déjà vu par le passé ce genre d'association de circonstances où justement on finit par s'attacher au perso. Donc j'aurais bien une petite association de ce goût-là. Le match était vraiment bon, en tout cas, comme tu l'as dit, elles ont toutes eu un temps d'antenne, y compris les Alicia Fox et autres Dana Brooke. Donc ça, c'était plutôt bon. Donc voilà, et puis bon, moi je trouve que Bailey a encore un petit peu de mal. Alors je sais pas si je suis aveuglé par c'est pas de la haine, hein, que j'éprouve envers elle, mais je suis tellement déçu de ce qui se passe avec elle que, tu sais, du coup maintenant je vois que les points négatifs et je trouve que vraiment là, même dans les moments où elle se faisait où elle subissait, on va dire, les promos, ah, je sais pas, il y avait pas de la haine, enfin la rage a explosé quand elle lui a sauté dessus, ça c'était ça faisait du bien, quoi, mais
bon, ouais, avant elle tirait la gueule un peu comme une petite fille qui boude.
C'est exactement ça.
Voilà, on est encore sur son booking à elle, précisément, on est encore un petit peu à côté de la plaque, hein, j'ai envie de dire, c'est encore un petit peu enfantin.
Ouais.
Et à côté de ça, Alexa Bliss qui explose, quoi. C'est elle qui a mené toute la promo du début à la fin. C'est beaucoup plus fun depuis qu'elle est là. Alors j'espère que ça va durer au niveau des filles d'Euro. Mais ouais, non, ça la pose encore un peu plus. Et puis effectivement, dans le match, du coup, on a vu des gens briller maintenant que Charlotte est pas là, parce que généralement c'est Charlotte qui mange un peu tout le reste du roster dans les matchs. Là, on a même pu voir Alicia Fox effectivement dérouler un petit peu. Dana Brooke aussi qui a fait 2-3 pirouettes plutôt sympa.
Emma aussi.
Emma aussi, voilà. Doucement, qui posait un peu son personnage aussi. Plutôt bien pour relancer tout ce roster féminin. Puis c'est sympa pour démarrer le show, je trouve. C'est peut-être toujours un petit peu long, effectivement, mais on a vu des trucs plus longs quand même à Raw. On va pas se le cacher. Hein. Voilà, alors, on va enchaîner. Alors, on a ensuite un petit footage exclusif extrait du WWE Network, post-payback. On voit effectivement l'attaque de Braun Strowman sur Roman Reigns après le pay-per-view. Donc, quand Roman Reigns se traîne lamentablement jusqu'à l'ambulance. Strowman revient, j'en ai pas fini avec toi. Il veut lui sauter dessus, mais Reigns esquive. Strowman se mange la porte de l'ambulance. Et il se remange une autre porte, puisque Roman Reigns lui claque la porte dans la gueule. Et on apprend donc que les deux sont blessés. Hein, mon vieux Roman Reigns, il a des côtes explosées. Et Braun Strowman, il a les chapeaux coiffes rotatives de l'épaule, apparemment, qui sont dans un sale état et qui sont déchirés.
Un affrontement qui a laissé des marques.
Qui a laissé des séquelles. On y reviendra après, Kurt Angle nous en reparlera. Tout ça c'est kayfabe apparemment, j'espère, parce que sinon la blessure dont il parle là de Braun Strowman, c'est un truc que tu restes 8 mois à la maison, hein, donc faut mieux que ce soit kayfabe. Hein. Mais j'ai pas vu de news passer comme quoi c'était du vrai, donc je pense que là on est un petit peu kayfabe, un petit peu beaucoup. Alors ensuite, on a Enzo qui affronte Luke Gallows, donc ça on va passer rapidement dessus. Big Cass et Enzo sont interrompus dans leur promo par Gallows et Anderson qui les attaquent dans le dos. Avant même le début du match, le pauvre Enzo, il est déjà blessé, il a un œil expé. C'est la victoire de Gallows après une longue domination parsemée de quelques belles actions d'Enzo quand même, qui essaye de reprendre le dessus mais qui n'y arrive pas. Gallows gagne quand même grâce à une distraction d'Anderson. Un match classique. Voilà, je pense pas que t'aies grand chose à dire là-dessus.
Non, parce que c'est impressionnant l'œil de Enzo qui progressivement commençait à devenir tout rouge et tout gonflé. Et à la fin du match, il a eu du mal à faire le selling sur son œil. Il s'est un peu trompé d'œil. Il fermait l'œil gauche. Il s'est rendu compte qu'en fait, non, c'est son œil droit qui était vraiment explosé pour la peine. Donc même quand il a vraiment mal, il scelle un peu de travers. Donc
ouais, c'est toujours pas ça hein, dans le ring, le pauvre Enzo.
Bon, au moins il donne de sa personne. On pourra jamais lui reprocher ça. Ouais. C'est toujours aussi chaotique, évidemment. Mais bon, moi, il y va à fond. Je lui donne pas. Je sais pas si dans 3 ans il sera encore là quand même. Hein, le mec.
À ce rythme-là, ouais, il va falloir qu'il le mette sur à côté à faire autre chose, hein, parce que sinon, apparemment, ils aiment bien le voir se faire prendre des roustes.
Oui, toi aussi, j'imagine.
Ah bah moi ça me dérange pas, hein. je suis là pour ça aussi. Hein. voilà, donc bah, sûrement une autre rouste la semaine prochaine, hein, on verra bien. Petit passage dans les vestiaires où Neville explique à TJ Perkins qui est en train de remettre en question la domination du roi des cruisers sur sa division. Neville explique que ce soir TJ Perkins il va devoir profiter de son match contre Harris pour en gros pour blesser A-Double, puisque bah, il va falloir quand même tout doucement se débarrasser de ce Austin Harris qui est bien encombrant. Et voilà, Neville joue un peu la carte du sous-entendu. Ce soir, on ira blesser Austin Harris. Alors, on reviendra plus tard sur ses cruisers. On arrive à un gros morceau. Seth Rollins qui débarque au ring pour sa petite explication hebdomadaire. Hein. Toutes les semaines, il vient nous dire un petit peu ce qu'il a sur le cœur. On n'y échappe pas cette semaine. Alors, il nous explique qu'il est content d'avoir gagné à Payback, hein, que c'est encore une fois notre victoire à tous, quelque part. Et il est rassuré sur son identité, hein, il est toujours Seth freaking Rollins. Il en a fini avec Samoa Joe, hein, après sa victoire éclatante de Payback, qui n'entraîne pas de discussion. Et maintenant, il veut tout simplement Brock Lesnar. Parce qu'il va récupérer hein, son titre universel, il n'y a pas de raison. Mais il est interrompu par Finn Balor qui débarque et qui explique que si Rollins c'est bien l'unijambiste qui a gagné à WrestleMania, Finn Balor lui c'est le manchot qui a gagné le titre universel. D'ailleurs Rollins il devrait s'en souvenir puisque ce match là où il avait gagné la ceinture universelle c'était bien contre l'architecte. Donc d'ailleurs ce titre là bah, il ne l'a pas perdu, Seth Rollins. Donc pour ce qui concerne d'affronter Brock Lesnar, la file d'attente elle commence ici, hein, elle commence juste derrière Finn Balor, on va pas se faire la griller la priorité, il n'y a pas de raison. Dean Ambrose débarque. Il n'y a pas de raison non plus que Dean Ambrose ne débarque pas. Il explique que lui aussi connaît bien Brock Lesnar, il l'a déjà affronté.
Dans un superbe affrontement.
Superbe affrontement, exactement, qui nous en avait mis plein les yeux. C'est à WrestleMania l'année dernière. Alors, il explique que Brock Lesnar, bah, c'est bien beau, hein, qu'il y a des challengers, mais lui, Brock Lesnar, il ne défend pas son titre très souvent. Donc, il va falloir mériter le titre de challenger. Et il ne défend pas son titre très souvent, contrairement à Dean Ambrose lui-même, qui lui défend son titre n'importe où, n'importe quand, contre n'importe qui.
Il a ça eu balance, des matchs. Hein.
C'est ça shoot, j'ai envie de dire. Dean Ambrose explique qu'il a même eu des matchs dont il ne se souvient pas. Nous non plus d'ailleurs, on ne se souvient pas quand est-ce qu'il a défendu son titre, qu'il se rassure. Voilà, donc tout ça c'est bien beau, mais effectivement il y a la voix de la raison qui débarque, The Miz, toujours accompagné de Maryse, qui arrive et qui explique que bah, Ambrose il a beau parler mais il a même pas cru bon de défendre son titre à Payback. Il explique aussi que Rollins n'est qu'un canard boiteux mais c'est pas grave puisqu'on n'est pas là pour faire une course, on est dans un ring de la WWE, là où le Miz a l'habitude de passer des mecs à tabac. C'est un vrai cogneur, ce Miz. Là, Baylor intervient pour mentionner que le Miz est le dernier membre du club Finn Baylor vient de me botter le cul. Hein, parce que ça s'est passé aussi à Payback, hein, il y a eu un Miss TV où The Miz s'est retrouvé sur le cul.
Ça nous change du Kiss My Ass Club.
Voilà, c'est un nouveau club qui vient de s'ouvrir. Il y a le Finn Balor Club Standard et il y a le Finn Balor vient de me botter le cul club. Voilà, alors Miz explique que ça c'est une attaque en traître à Payback, que Balor est un lâche. Et le Miz, lui, c'est l'homme le plus dangereux de la WWE. Là, le trio, hein, Ambrose, Balor et Rollins lui demandent de fermer sa gueule, hein, en concert. Ambrose prend les commandes. Il explique, alors ce soir on sait une chose, c'est que Dean Ambrose lui défendra son titre n'importe où, n'importe quand, contre n'importe qui. Alors il demande à la foule si elle souhaite voir le Miz se faire botter les fesses par Rollins. Il pose la même question avec Baylor en adversaire cette fois-ci. Donc la foule est pour l'un comme l'autre, hein. On est chaud pour voir le Miz se faire botter les fesses. Dean Ambrose prend son téléphone, il appelle Kurt Angle. Ah, il a le numéro de Kurt Angle, on apprend que c'est Mick Foley qui lui a piqué. Qui lui a filé plutôt.
D'ailleurs, il y a une petite anecdote marrante. Quelqu'un fait une capture. Je crois que c'est Mathieu de Botchomania qui a fait une capture d'écran où en fait sur le téléphone c'était tu voyais clavier, tu sais. Donc en fait c'était pas du tout un mode appel. Il était en mode texto.
Ouais. Il y a pas beaucoup de catcheurs qui savent se servir de leur téléphone, j'ai l'impression. On le reverra avec Titus O'Neil aussi. Donc voilà. Donc il appelle Kurt Angle et il boucle un. Un triple threat, Baylor, Rollins, Le Miz, et à la clé de ce match, hein, ce sera le main event de ce soir, à la clé de ce match, une place d'aspirant numéro 1, pas pour le titre de l'univers, mais bien pour le titre intercontinental. Voilà, une promo assez complète qui rebat un peu les cartes. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ?
Alors, juste avant, quand il y avait la petite séquence de Neville backstage, j'étais assez sur le cul. On avait vraiment l'impression de mater un épisode de Game of Thrones avec son accent de méchant, etc. On aurait dit du Shakespeare. Et en parlant de Shakespeare, justement, cette Rollins, ça nous a bien gratiné d'un monologue bien fadasse. Hein. Je comprends mieux vos plaintes hebdomadaires concernant Seth Rollins. C'est assez naze et ce personnage-là, t'as l'impression qu'on lui, enfin c'est pas lui qui parle, c'est pas possible, ces promos-là de face qui met le public dans sa poche. Vous en voulez encore ? Salut à tous ! l'animateur de fête foraine. Finn Balor, justement. Toujours en parlant de Shakespeare, il a pris quelques cours d'acting visiblement parce que il arrive enfin à aligner une petite promo qui se tient. C'était pas forcément son fort, donc voilà, c'est à saluer. J'ai beaucoup aimé vraiment la façon dont ils ont recentré les discussions sur le titre intercontinental. En disant qu'à l'heure actuelle le titre suprême effectivement à Raw c'est pas le titre de WWE, c'est pas le titre universel, c'est titre IC intercontinental, donc ça j'ai beaucoup aimé. On a un peu l'impression qu'ils ont chopé les scénaristes de SmackDown, hein, parce que SmackDown était assez spécialiste justement dans le genre, hein, pour réussir à justement faire des rivalités un peu croisées comme ça. Justement, comme tu le dis, on rabat les cartes avec tout ce qui est de la top card, voire de la mid card, réussir un peu à remélanger tout ça. Et faut dire que le Miz y est pour beaucoup, hein, parce qu'il nous a encore fait des promos. Oh là 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 là, il a descendu un peu tout le monde, là, les uns après les autres. C'était assez passionnant à entendre, à écouter. Seth Rollins et Finn Balor ont un peu servi de punching ball. Dean Ambrose a réussi parfois à sortir un peu la tête de l'eau, mais nom de Dieu, ce Miz là, tu le mets dans une rivalité. Après, comme tu le dis, on a un peu l'impression de récupérer les rivalités de SmackDown. Hein. Dean Ambrose, le Miz, ils sont déjà croisés. Donc super, franchement je trouvais que c'était quand même comme tu l'as dit super complet et vraiment moi j'étais hyper hypé pour le main event quoi, donc ça a plutôt bien fonctionné.
Ouais, non, bien construit tout ça. Le Miz qui reprend, bah, j'ai l'impression qu'il va reprendre la place de Chris Jericho, quoi. On voit.
Oui.
Et puis tous ces trois gaillards-là, ça va devenir, je pense, la colonne vertébrale de Monday Nitro, hein, parce que s'ils vont faire le gros du show, je pense, dans les semaines qui viennent. Là, on voit cette semaine, on n'a pas Brock Lesnar, on n'aura pas Braun Strowman, on n'aura pas Roman Reigns, et c'est eux qui vont assurer le show, le main event. Je pense qu'on s'oriente vers ces choses-là pour les semaines à venir pour tenir la boutique, hein, le temps que The Beast revienne et que le Big Dog aussi et Braun Strowman se décident à revenir aussi. C'est plutôt sympa, hein, un carton de mecs qui sont efficaces. Et puis comme Finn Bálor, il est aussi assez rafraîchissant.
Ouais.
Voilà, on a le Miz qui est au top, Dean Ambrose qui est plutôt pas mal dans son côté comique. Bon, Seth Rollins, voilà, c'est bien qu'il ait des gens autour de lui parce que sinon on s'ennuierait ferme avec lui. Et voilà, donc les quatre ensemble, c'est parti. On reviendra sur eux pour le main event. Mais plutôt un segment où on ne s'est pas ennuyé, hein, clairement. Alors, un peu plus anecdotique, les Cruiserweight, Noam Dar, Brian Kendrick, Tony Nese, qui perdent contre Jack Gallagher, Rich Swann et Akira Tozawa. C'est Gallagher qui fait le tomber sur Kendrick grâce à son fameux dropkick en diagonale, là, où il part à 2 mètres du sol et il décapite son adversaire. Bon, c'était un bon match, hein. C'était percutant, il y a eu un gros
Ouais.
déroulé de Rich Swann.
Moi, j'ai adoré.
C'était, ouais, enfin, franchement, très bon moment pour remplir l'émission, mais alors aucun enjeu, hein, puisque...
Ah bah là, c'était du house show, quoi. Hein. On
C'est
était
ça, c'est ça.
de la drôlerie, de la bagarre. Voilà. Mais dis-moi là, à Ringside, il va falloir que tu m'expliques. C'était quoi le problème avec les divisions Cruiserweight? Parce que ça, moi, j'ai bien aimé, par exemple, ce match-là. C'était drôle, il y a de la baston. Ça allait, ça sautait dans tous les sens. Est-ce que là, par rapport à il y a 2 ou 3 mois, est-ce que il y a du mieux ou...
Ah bah là clairement ils ont déroulé. Il y a, voilà, notamment Rich Swann, il a été excellent. Les matchs c'était pas booké comme ça sur les semaines qui sont passées. On avait souvent des affrontements un contre un avec beaucoup de map wrestling,
Oui.
des prises de tête, des machins. Là ça allait, il y a un moment donné c'est parti à 100 à l'heure. Voilà, ça c'est le genre de match qu'on aimerait voir voilà, toutes les semaines, faire varier un petit peu les têtes, etc. C'est pas ce qu'on a eu depuis des mois et des mois. Hein. Donc là, il n'y a pas d'enjeu, mais au moins c'était fun. Donc du coup, on va pas cracher dessus, mais c'est sûr que il n'y a pas grand-chose à analyser.
Non.
Si ce n'est que s'ils pouvaient faire des matchs comme ça toutes les semaines, effectivement, ça redorerait le blason de la division et on comprendrait un peu mieux pourquoi on a un show spécial 205 Live qui existe. Et pourquoi on avait fait autant de ramdam autour de cette division. Là, on est plus proche des matchs qu'on avait au Cruiserweight classique. Si ça pouvait rester à ce niveau, ce serait pas mal. Hein. Et puis bon, on n'a pas Daivari et compagnie, Drew Gulak, les mecs qui sont plus map wrestling, qui sont pas mauvais, hein, mais c'est pas eux qui vont nous en mettre plein les yeux. Là, on avait vraiment, voilà, entre Noam Dar, Jack Gallagher, Rich Swann, Akira Tozawa, ça c'est du lourd quoi. Tony Nese, il est pas mauvais non plus. Brian Kendrick, c'est un vétéran maintenant. On les laisse se battre entre eux comme ça. Voilà, y a... C'est spectaculaire, c'est fun, c'est ce qu'on a envie de voir chez les cruisers quoi. Donc si effectivement si ça reste comme ça, on est cool. Après, il faut juste qu'ils réussissent à booker un peu des histoires autour qui soient un peu plus intéressantes que les amours d'Alicia Fox, quoi. Alicia Fox.
Alicia Fox.
Alors, avançons un peu dans le programme.
Allez.
Sheamus et Cesaro qui viennent s'expliquer. Alors, ils sont en mode badass. Hein. Cesaro, il sourit plus comme un gogol. Hein. Il tire la gueule.
Ils sont
Ils ont des.
tellement habillés n'importe comment le soir là.
Ils ont mis leur veste de dur à cuire sur leur kilt de dur à cuire. Enfin, je sais pas si un kilt noir comme ça, c'est pas simplement une jupe,
Oui,
mais
une jupette, quoi, on
une
dit.
jupette,
Oui,
hein. Une jupette
une
pour.
jupette avec leur veston là, récupéré dans un surplus militaire.
C'est ça.
C'est pas... On aurait dit des punks semi-vétérans
C'est
d'une
ça.
guerre irlandaise, je sais pas quoi.
Ouais,
Bon.
ils testent, hein. Ils testent le look. C'est déjà mieux, je trouve, que le tuxedo de de ce pauvre Cesaro. Donc voilà, bah, il nous explique alors qui sont. C'est Sheamus, hein, surtout, qui nous explique qu'il est enfin libéré du poids de la foule, là où il était obligé de faire le gentil toutes les semaines, là, pour être en adéquation avec Cesaro. Hein, il se souvient que le public se foutait de sa gueule en lui disant qu'il avait l'air stupide. Maintenant, qui c'est qui est stupide, hein, les Hardy qui se sont fait défoncer la gueule à Payback. Hein, car je vous rappelle qu'effectivement, après le match qu'ils ont perdu, Cesaro et Sheamus, ils ont passé à tabac les Hardy. Et donc, ils nous expliquent que pourquoi ils ont tapé sur les Hardy, parce que les frères Hardy, ils ont volé leur moment à WrestleMania, hein, puisque ça devait être la victoire assurée de Cesaro et Sheamus, et on a rajouté au dernier moment les vétérans, les frères Hardy qui faisaient leur retour à la WWE, et le public a été pris par la nostalgie, comme nous explique Cesaro un peu plus tard, parce que le public n'est pas capable d'apprécier le présent, d'apprécier ce qui est dans le ring à ce moment-là, ce qui n'est pas faux, hein, ouais, quelque part. Et ils nous expliquent aussi, alors ça c'est un peu plus bizarre, ils expliquent que c'est pas eux qui doivent faire tomber la barre ou battre la barre, c'est eux qui sont la barre.
Oui. tiens mon labeur. Hein. Surtout, ils ont bien tenu, c'est le bar qu'ils ont bien tenu avant de faire cette promo.
Ouais, c'est ça.
Les piliers de trottoir.
Les piliers. Bon, là-dessus, les Hardy débarquent.
D'ailleurs,
en gros,
on parle
ils acceptent. Bah oui, on parle d'eux. Voilà, ils disent, ah, on vient là pour donner notre réponse. Et leur réponse, c'est qu'ils se jettent sur le ring, mais... comme ils ont un peu mal au genou, le temps qu'ils arrivent, bah, Cesaro et Sheamus, ils sont déjà partis. donc voilà, alors ils font le geste d'élite, hein, avant de se jeter vers le ring. Toujours un peu pour teaser cette...
Ah, puis il l'a bien teasé là, hein, Matt.
Ouais, mais le public avait déjà craché le morceau avant. Voilà, ce petit développement là, il te paraît crédible, et Cesaro et Sheamus en heel très très méchant.
Alors, ils me paraissent crédibles. Déjà, j'adore ce genre de heel turn très naturel, très justifié, où les mecs ont raison. Enfin, on dit toujours que les meilleurs heels, c'est ceux qui ont une part de vérité dans ce qu'ils disent, sans exagérer, toi, sans être loin, même si dès qu'ils commencent un peu à insulter le public, bon, là, c'est toujours un peu facile. C'est vrai que Cesaro, je sais pas trop, je regardais la tête qu'il tirait, et t'as l'impression, enfin, je sais pas trop s'il y croit vraiment, en fait, enfin, il est, je sais pas ce que ça va donner, Cesaro en heel.
Moi, je le trouvais pas mal, hein, tirer la gueule comme ça, plus sobre, plus, tout de suite, je sais pas, je trouvais que ça le faisait en heel. Que d'un ras-le-bol, quoi, finalement.
Oui, bah, je pense que de toute façon, je pense que clairement, les mecs, ils en ont ras-le-bol, toi. Ils veulent, ils visent plus haut, ils méritent plus haut. On leur dit, tout le monde leur dit qu'ils méritent d'être en haut de la carte, ou en tout cas, un niveau au-dessus. J'attends de voir, mais en tout cas, c'est vraiment super bien amené. Et moi, j'accroche totalement, hein, ce nouveau positionnement. Ça va vraiment permettre, justement, bah, je pense que ça va leur permettre de les faire monter encore un petit cran au-dessus. Alors, en tout cas, là, le faire continuer la rivalité, ça c'est bien avec les Hardy. Et puis voilà. Donc ouais. Ouais, je suis plutôt convaincu.
C'est une rivalité qui est cohérente. Hein.
Ouais.
Donc du coup, les retournements de situation qu'il y a eu, c'était amené de manière, comme tu dis, assez logique, assez naturelle. Le heel turn, il se fait de manière organique, comme
en
on
incluant le public, hein, en disant que c'est vrai que c'est un peu notre faute, quoi. Nous, les fans qui arrivons pas qui idolâtrons, pardon, le passé, les stars du passé, hein, on le sait bien, hein, nous aussi, hein, qu'on a à catch-up, qu'il y a des big stars qui reviennent, pas toutes, hein, mais que Goldberg est venu, c'était ça fait un effet à tout le monde, le public, même les gens même moi, toi qui n'es pas trop connu cette époque, c'est vrai qu'il y a un super charisme, hein. Après, tout n'était pas parfait, évidemment, mais et même les Hardy, quoi, enfin, t'es pris par la hype, le public, etc., enfin, il y a quelque chose qui se passe.
Les gens sont là à dire, oui, Cesaro, il faudrait qu'il soit en solo, etc., etc., alors qu'ils forment une équipe qui est assez extraordinaire avec Sheamus, Et peut-être qu'il faut les laisser faire leur histoire de tag team jusqu'au bout avant de vouloir les séparer tout de suite.
Oui, non, faut, non là, clairement, il faut qu'ils continuent. Là, c'est rien.
Voilà,
il n'y a pas de place pour tout le monde en haut.
Voilà, exactement, il n'y a pas vraiment de place pour eux. Et puis, bon, ça, moi je l'ai dit aussi qu'il fallait qu'ils auraient leur place en solo, mais maintenant, là, ils sont dans une rivalité qui est assez extraordinaire avec les Hardy. Et je pense qu'on va passer un très bon moment là dans les semaines qui viennent, aller voir s'affronter autour de la ceinture. Voilà, on a enfin cette division d'Euro Tag Team qui est intéressante, ouais. Donc on va continuer là-dessus. Et puis on a Extreme Rules qui arrive, alors les Hardy en Extreme, ça va donner du lourd, ça va donner un match, je pense, à quelque chose comme historique.
Et Cesaro avait jamais fait de promo aussi longue dans mes souvenirs. Hein. Là, je sais pas, il a dû parler 3 minutes, peut-être 2 minutes. Je crois que c'est longtemps qu'il n'avait pas fait une si longue promo.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est pas encore ça, mais bon, c'est bien, un petit peu de temps d'antenne. Ils sont aussi nuls l'un que l'autre de toute façon, avec Sheamus sur les promos.
C'est pas les premiers
c'est
de
pas
la
grave,
classe.
Mais voilà, mais il fallait bien qu'ils s'expliquent hein, sur le pourquoi du comment. Alors, on retourne dans les coulisses. Une interview du Miz par la belle Charlie Caruso. Il y a aussi Maryse qui est là. Alors, voilà, c'est un moment assez spécial pour moi. Hein. Charlie Caruso et Maryse dans la même séquence.
Entre les deux, ton cœur balance. C'est bien ton cœur qui balançait.
Voilà, mais le bonheur est de courte durée puisque l'interview est court-circuitée par Dean Ambrose. Voilà, hein, Charlie Caruso pose une question, le Miz répond et d'un seul coup on se rend compte que c'est un Dean Ambrose qui tient le micro. Il se fout de la gueule du Miz à propos de sa coiffure. Le Miz est vexé, il se casse. Dean Ambrose donne le retour au studio et on va avoir deux trois fois Dean Ambrose là, qui va revenir. Il va interviewer un peu plus tard Seth Rollins. Alors ça c'est rigolo parce qu'il débarque dans les vestiaires. Seth Rollins est en train de s'habiller. Seth Rollins se retourne, il dit qu'est-ce que tu fais là, c'est pas prévu et tout. Dean Ambrose il lui dit non, c'est une émission de télé-réalité là, t'avais pas remarqué qu'il y avait une caméra là, tu te demandais pas pourquoi il y avait quelqu'un dans les vestiaires pendant que tu t'habilles. Ah bah oui, c'est vrai, c'est pas, ça tient la route. Et donc là bon, il se lance dans une interview avec des sous-entendus. Dean Ambrose parle à la troisième personne, Seth Rollins répond à la troisième personne. Et en gros ils vont se foutre sur la gueule si ça continue comme ça quoi, puisque Dean Ambrose sait très bien de quoi Seth Rollins est capable quand il a un œil sur une ceinture, et Dean Ambrose il explique qu'il a été surpris une fois par Rollins mais que ça ne se reproduira pas, donc voilà, les choses sont claires entre les deux même si on est dans les sous-entendus. Et un peu plus tard encore une fois Dean Ambrose vient interviewer Finn Balor. Il lui demande s'il a des doutes et Finn explique qu'il se nourrit des doutes et qu'avec les doutes il produit des résultats. Dean Ambrose lui propose alors de se nourrir plutôt d'un donut. Il lui propose le gâteau. Finn Balor mange le gâteau. Là, le drifter qui se promène dans les coulisses, ce bon vieux Elias Sanson passe en gratouillant. Voilà, ce Dean Ambrose un peu rigolo, qui joue les maîtres de cérémonie, t'es convaincu, c'est distrayant, ou tu préférerais le voir en mode plus hardcore, plus CZW?
Alors, moi, enfin, généralement, je vote Dean Ambrose hardcore, qui écrase la tête de ses opposants dans un élan de colère ou de folie. Et je suis souvent moins fan quand il fait le comique mais de très bas niveau avec son chapeau qui vient de perdre tout son argent au casino. Mais pour autant là j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué. J'ai beaucoup ri en fait quand il venait en fait hacker les interviews ou aller dans les backstage, parce qu'il y avait un côté vraiment un peu mind game qui était, ouais. Il y avait vraiment une intention derrière qui était vraiment de déstabiliser ceux qui enfin les un de son futur opposant quoi, le prochain first contender. Donc là c'était un mind game comique mais avec des intentions. J'ai beaucoup aimé la partition qui a été faite là avec cette interaction avec Seth Rollins où ça montait. Au début c'était rigolo, c'était il avait de la bonne camaraderie et puis comme tu disais, beaucoup de sous-entendus. Donc j'aime beaucoup que comme ça, il y a une on n'oublie pas le passé et on n'oublie pas que voilà, au-delà de leur pas de leur amitié parce qu'ils sont pas redevenus potes, mais voilà, dorénavant ils sont plus ennemis. Malgré tout, ça reste des rivaux et donc voilà, du coup, j'aime bien ce Dean Ambrose quand derrière, toi, au-delà de l'humour, il y a vraiment un côté psy, quoi, enfin mind game qui le sert lui et pas juste l'amuseur public des petits-enfants, quoi.
Ouais. Non, c'est bien de le voir effectivement comme ça, peut faire le maître de cérémonie. Alors, c'est lui qui boucle les matchs, hein, il fait le boulot de
Ah
porte de gueule et il fait le boulot d'intervieweur. Il se crée ses propres challengers et
Mais
il casse de la
il veut créer un
merde.
show, non? C'est pas ça.
Ouais. Oui, c'est ça, oui, il y avait une histoire comme ça. Donc, il faut bah, pas moins que le Miz et Dean Ambrose pour remplacer Chris Jericho et puis Kevin Owens. Donc, il faut quand même que les mecs soient dans l'entertainment et qu'ils savent faire plus que juste des matchs et quelques promos un peu pérables dans le ring. Donc, non, c'est bien s'ils continuent sur des trucs comme ça. Moi, je suis plutôt client aussi. Et même, je suis même plutôt client, moi, de Dean Ambrose cartoony plutôt que du Dean Ambrose hardcore. J'ai pas été très convaincu par ces matchs quand il utilisait des serpillères ou des choses comme
Ah oui,
ça.
non, mais alors qu'on soit bien d'accord, qu'on se comprenne bien, ça non plus, hein, je cautionne
Ouais.
pas les matchs à la base de Serpierre, mais ses affrontements avec AJ Styles, par exemple, où par moments il avait vraiment des excès de violence, où il lui écrasait la tête, etc., c'est plutôt ce côté-là que j'aime bien, toi, le
Ouais.
côté je t'écrase la tête. Pas je te
Mais
balance un coup
non.
de
Et l'un
serpillère.
n'empêche pas l'autre. On peut être rigolo dans les vestiaires et après bien hardcore dans la rue.
Exactement, exactement.
Et puis ça a l'air d'être parti pour ça. Donc voilà, hein, on a besoin de choses comme ça pour remplir les Raw qui sont quand même très longs. Et on a aussi besoin de choses comme l'affrontement qui suit, c'est-à-dire Apollo Crews qui va affronter Heath Slater. Donc dans les vestiaires, on voit Apollo Crews qui s'entretient avec Slater qui a plein d'enfants, hein, on sait, et qui donne des conseils au futur papa Apollo Crews. Titus débarque, il n'est pas content, il dit à son bon ami Apollo, tu discutes avec l'ennemi. Et donc après, on a un match qui n'est pas très bon, où Apollo Crews bat Heath Slater. Après le match, Titus vient faire, vient récomp, vient, comment dire, féliciter Apollo Crews. Il fait un petit selfie, encore une fois, avec Apollo. Rhino fait un photobomb, hein, il se met derrière pour gâcher la photo.
Votez
Et
Rino.
voilà, il vote Rhino, ouais, il vient avec son t-shirt de sa campagne électorale qu'il a perdu, je crois.
Ah.
Ah oui, non, bah oui, pas
Ah,
déconner.
je savais pas encore vu, tu m'as spoilé la campagne électorale de Rino. C'est pas
Et
très
je crois que c'est
sympa.
passé, hein, je crois que c'est fini. Hein. Mais bon, je dis peut-être une connerie, on me corrigera hein,
Il
si je suis
avait
pas
fait
bon.
des petites publis avec Kurt Angle et Tommy Dreamer qui était venu faire des clips de campagne. Ouais, c'est très drôle, je vous invite à
Ça n'a
regarder
pas
ça.
marché. Ça n'a
Non.
pas marché, c'est étonnant. Ouais, donc là, on est dans la low card un petit peu. Apollo Crews, le transfert de SmackDown. Est-ce que tu comptes le reprendre ou
Non,
comment
non,
ça se
non, non, non.
passe? Ou tu
C'est
nous
comme
laisses
Bray
attendre un
Wyatt,
peu?
hein. Voilà, je suis bien content que ça soit à Raw maintenant, même si, regarde, je me retrouve à faire les catch-up Raw, alors. Je suis obligé de tout regarder maintenant, alors.
Voilà,
Non, là,
normalement, tu
vraiment.
n'échapperas pas.
Le seul truc, point positif, c'est que Apollo Crews, il a un charisme d'huître proche de zéro, et qui sait pas faire de promo, visiblement, et que Titus O'Neil, lui, c'est plutôt une grande gueule, qui sait pas catcher. Donc, bon, visiblement, les bookers ont enfin compris, ça fait tilt dans leur tête, ils se sont dit, bah tiens, on va mettre ces deux-là ensemble, puis on va peut-être voir ce que ça donne. Un, ça divise le temps d'antenne consacré aux deux par deux, donc c'est déjà pas mal. Et puis, bah, ça peut peut-être donner quelque chose pour de la low card, voilà, une petite storyline, un petit gimmick, voilà.
C'est ça, effectivement. C'était peut-être le meilleur truc à faire pour l'instant avec Apollo Crews qui est définitivement, je pense, monté trop vite dans le roster
Ah bah
principal.
voilà, mais c'est ça les gars, là, toujours appelé à vouloir que vos stars préférées montent dans le main roster. Voilà, on voit ce que ça donne, hein.
Ouais, il serait pas interdit de le faire revenir à NXT, mais je crois qu'ils l'ont payé trop cher. Si... Mais bon,
Un coup
c'est
de
pas
transfert faramineux.
transfert. Voilà. Puis Slater et Rhino, bon, toujours sympa, toujours rigolo les deux-là.
Oui.
Alors, un peu plus tard dans le ring, Kurt Angle,
Ah.
ah, le dieu Kurt Angle, nous annonce les blessures de Roman Reigns et Braun Strowman, donc des mauvaises nouvelles.
Oui. Très mauvaise.
Très mauvaise nouvelle. Hein. Donc Roman Reigns, des blessures aux côtes, et Braun Strowman, donc le chapeau rotatif de la coiffe de l'épaule. Et Bray Wyatt vient se présenter à Kurt Angle. Il explique des conneries, comme d'habitude. Désolé, j'ai un chat dans la gorge.
J'espère que c'est pas le chat de Natalia. Parce que, mon pauvre vieux, va falloir que tu t'ouvres un compte Instagram, le chat de la gorge de Ringside. Ça pourrait être pas mal, ça.
C'est ça. Je vous ferai des photos, des nouvelles tous les jours. donc, Bray Wyatt raconte des conneries. Et Kurt Angle, à la fin, il explique n'oublie pas que c'est mon show. Et Bray Wyatt lui dit n'oublie pas que c'est mon monde. Voilà l'arrivée de Bray Wyatt à Raw. Convaincant pas.
Ouais, c'était pas. Enfin, voilà, moi ce que j'aime bien, en fait, visiblement, il va laisser tomber, en tout cas j'espère, le côté film d'horreur des années 80, qui voilà cette ambiance film d'horreur qui avait en fait clos la rivalité avec. Avec Randy Orton, et revenir peut-être, en tout cas j'espère, à ce personnage de gourou qui est beaucoup plus intéressant à mon sens. Et du coup, cette interaction avec Kurt Angle était plutôt intéressante, parce que j'aime bien... Enfin, je trouve ça sympa, assez cohérent qu'un espèce de mec comme ça qui veut essayer de lobotomiser un peu tout le roster, en tout cas c'était ses intentions premières... se retrouve à devoir un petit peu combiner avec les autorités en place, quoi. Le mec il peut pas lobotomiser les gens comme ça sans que les responsables du show aient leur mot à dire. Donc voilà, je trouvais que c'est une interaction plutôt sympa et assez rafraîchissante. Il a très souvent évité les figures d'autorité Bray Wyatt, donc ça peut être intéressant. Je mets à suivre.
Ouais, la légende Kurt Angle face au nouveau visage de la peur, Bray Wyatt, ça valait le coup d'être testé.
Oui.
Après, je suis toujours très peu convaincu par Bray Wyatt. Tiens, pour les.
Bah, il a perdu beaucoup de gens en façon.
Ouais. Pour les vétérans qui nous écoutent, je crois que Bray Wyatt, c'est le nouveau Kevin Sullivan, c'est le nouveau Taskmaster. On a essayé de nous le vendre comme le nouveau Undertaker. Je crois que ce ne sera pas plus que le nouveau Kevin Sullivan. Si vous en pensez quelque chose de ce que je viens de dire, n'hésitez pas à le commenter. Voilà, donc voilà, hein, Bray Wyatt qui se présente. Alors, on va revenir au Cruiser. Puisque c'est l'heure du match entre TJ Perkins et Austin Aries. Donc, on a un combat, encore une fois, de haute volée entre les deux. Austin Aries est au top, mais il s'est attaqué au genou par TJ Perkins. Il le place dans le cochon pendu et qui lui met des bons dropkicks dans les genoux. Mais Austin Aries réussit quand même à gagner puisqu'il arrive à contrer le Dead Nation King en une last chancery et TJ Perkins est obligé de taper et donc après le match TJ Perkins attaque encore une fois Austin Aries. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit passage des cruisers?
Bah écoute, ouais, c'était solide, c'était vraiment un bon match. Enfin, clairement, là, le niveau de la division Cruiserweight est cool et j'aime beaucoup le nouveau TJ Perkins à TJP, là, sous la coupe là, de Neville. Et ça peut donner vraiment une triplette, ça donne une triplette assez intéressante, une dynamique assez intéressante. Donc voilà, là, on le met dans les pattes d'Austin Harris. Donc, non, c'était un bon moment, un bon passage. Ouais.
Ouais. Il tient bien à la division Cruiserweight. Austin Aries. Il y a Neville qui est en renfort à côté, qui tient bien la ceinture. Et le petit TJ Perkins là. Qui
fait le sale boulot, quoi. Qui fait le petit soldat. C'est bien.
Qui est toujours hyper solide dans le ring. Donc, voilà. Ça donne des bons matchs. On a eu des bons matchs de Cruiser cette semaine. On va essayer de continuer sur cette lancée. The Golden Truth, Goldust et R-Truth qui viennent quémander une opportunité pour le titre tag team à Kurt Angle. Et on nous annonce que la semaine prochaine, il y aura un turmoil match pour déterminer l'aspirant numéro 1 à la ceinture tag team. Hein. Donc, c'est pas fait, Cesaro et Sheamus. Hein. Il y a encore
non, ouais.
Un challenger qui va être déterminé. Vous avez quelque chose à dire sur ce petit passage ou...
Non, mais c'est assez émouvant le petit passage de Goldust là, qui a rappelé le passé. On se connaît et tout. Enfin, pas émouvant, mais c'est assez. Enfin, moi j'ai bien aimé ouais, la petite
ouais.
promo de Goldust bon. Qui essaie un petit peu de dire allez vas-y sois gentil donne-nous ce on sait qu'on mérite pas d'être first contender mais si tu pouvais nous donner une opportunité de gagner les ceintures ce serait tellement cool en souvenir du bon vieux temps.
c'est ça je voulais à la corde sensible mais bon ça on est toujours content de les voir, on les voit pas si souvent Golden Truth à part pour se faire démonter par Braun Strowman. Donc voilà, ils ont le droit à leur petit temps de TV et puis du coup la semaine prochaine on a un petit match qui nous hype moyennement mais qui nous hype quand même. Alors on arrive au main event, donc les triple threat entre Baylor, Le Miz et Rollins. Donc dans la première partie du match, Le Miz va tout faire pour esquiver le combat. Il va tenter de laisser ses deux adversaires s'affronter en restant à l'extérieur du ring. Il va aussi tenter de nouer des alliances de fortune. Il va même utiliser Maryse pour se protéger des assauts de ses adversaires. Mais rien n'y fait. Finn Balor et Seth Rollins vont même se disputer le droit de taper sur le Miz. Et ça va générer de la confusion dans le ring qui va permettre au Miz de prendre le contrôle du match en faisant notamment tomber ce bon vieux Seth Rollins en bas du turnbuckle hein, à l'extérieur du ring. Et ainsi, après la pub, on se retrouve avec le Miz qui porte un collier arrière sur Baylor. Le Demon King reprend l'avantage en contrant la Miz Line, mais il se fait cueillir par une sorte de springboard crossbody de Rollins. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il voulait faire, c'est un peu botché, comme on dit dans le métier.
Ouais.
Le pauvre Baylor se mange le genou de Rollins. Il restera sonné un bon moment. Les autres pendant ce temps ils se tapent dessus en attendant que l'ancien champion de l'univers reprenne ses esprits. C'est le Miz qui prend le dessus après avoir envoyé Rollins épaule la première dans le poteau. Il déroule la Miz Line, il fait ses hommages à Daniel Bryan, hein, ses dropkicks, ses coups de pied. Baylor reprendra le contrôle en esquivant un kick du Miz et en l'envoyant sur Rollins qui le chope en DDT pendant que lui-même se prend un dropkick.
C'est une magnifique.
Nouvelle combinaison là. Finn Balor est en feu, il reprend le contrôle du match. Festival de dropkick, on court sur le tablier du ring pour placer des kicks dans la face de ses adversaires. On place le 1960, c'est ce qu'on appelait le Bloody Sunday dans le temps, sur Rollins. Simplement deux. On retente la même avec le Miz, le Miz intervient avec un gros kick. Mm. Baylor est sur la touche. Le Miz travaille ensuite le genou de Rollins jusqu'à placer une prise en 4 que vient casser Baylor. Là, la foule est en feu. This is awesome. On entend les chants dans tous les sens. Ensuite, c'est à toi, à moi, au niveau des super kicks. Rollins place un double blockbuster, hein, c'est-à-dire qu'il prend les deux, Baylor et le Miz, en blockbuster. Frog Splash sur Baylor pour le compte de 2. Superplex enchaîné sur un Falcon Arrow sur le Miz pour le compte de 2. Double Suicide Dive d'un côté sur Baylor par Rollins, hein, toujours. Puis de l'autre côté sur le Miz. Rollins, c'est maintenant Rollins qui est en feu. Mais voilà que Samoa Joe débarque. Ah, il place son écrasement sur Rollins à l'extérieur du ring. Et oui, hein, c'était trop beau. Un match fair play comme ça, magnifique. Non, c'est gâché par l'arrivée du Samoan. L'architecte ne s'en relèvera pas. Donc tout ça se passe sous le regard stupéfait du Miz qui perd un peu de trop à regarder l'action. Il se fait cueillir par un Sling Blade de Baylor qui enchaîne sur son méga dropkick. Et là, c'est parti pour le coup de grâce. Mais voilà que les lumières vacillent. Le noir se fait. Puis les lumières se rallument, évidemment. C'est Bray Wyatt. Il est dans la place. Il fait chuter Baylor. Il le place dans un Sister Abigail qui sèche le Demon King. Le Miz en profite et fait le tomber pour le compte de 3. C'est bien le Miz qui ira affronter Ambrose pour le titre IC. Sacré main event. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça?
Là, je viens de revoir la durée du match. 22 minutes 55 secondes quand même. Donc un gros match.
Ouais. Je l'ai regardé une deuxième fois, effectivement, c'était très long, très dense. Hein.
Ouais, alors au début, c'était un peu... ils ont du mal à rentrer vraiment dans le côté triple threat, quoi, enfin la stipu vraiment du match. C'était un petit peu frileux, ils étaient un peu frileux les uns les autres. En particulier, je trouve Seth Rollins et Finn Balor. Alors évidemment, il y avait le Miz là qui jouait qui s'éclipsait au début du match. C'était plutôt sympa. Mais alors après, une fois qu'ils ont lâché les chevaux, là, c'est vraiment, enfin, la triple frite, hein, c'est vraiment une de mes stipulations préférées, si c'est ma stipulation préférée, surtout quand on a des mecs comme ça qui avaient le feu au cul.
Avec les trois là, c'est incroyable. C'est du loup, hein. Encore sur toute la partie effectivement du début, j'ai passé assez rapidement, mais il se passait des trucs aussi qui étaient super bien.
Ouais, il y avait un peu plus de psychologie ou un peu d'humour, voilà. Et puis bah que les choses sérieuses sont vraiment arrivées. Là, ils ont tous les trois, ils en sont tous ressortis grandis et gagnants, même s'il n'y a qu'un gagnant, et c'est le Miz. Et d'ailleurs, le Miz, je tire mon chapeau parce que il a été montré vraiment très résilient, très résistant, il s'est relevé de tout, quoi, parce que finalement, c'est vrai que c'était lui le heel en péril, si je puis dire, qui a mangé pas mal de combinaisons dans la tronche, même si les autres s'en mettaient sur mutuellement quand même, parce que faut pas déconner, il peut y avoir qu'un seul gagnant, ça c'est certain. Mais les trois là, que vraiment, enfin, c'était un énorme match, hein, probablement un des matchs là de hebdo, quoi, de Raw, un des meilleurs main events, je pense, qui a été voilà, qu'on a pu nous offrir là. Il y avait vraiment une super dynamique entre les trois gaillards. Donc moi, j'étais ravi, hein, y compris le résultat, parce que bon, ouais, ça fait sens. C'est pas si surprenant que ça finalement, hein, les interventions.
Ouais. Bon, on a déjà vu cette rivalité entre Ambrose et le Miz, mais ça s'était pas vraiment terminé à SmackDown, hein. On était un petit peu sur, on était resté sur notre fin sur cette histoire-là, donc c'est pas trop mal que ça revienne à Raw comme ça, surtout pour donner des main events d'une qualité comme ça. Bah, on voit, voilà, Brock Lesnar est pas là, Roman Reigns est pas là, Braun Strowman non plus, mais on a du lourd, hein. On a du niveau, donc aussi bien pour faire le show en milieu d'émission que pour assurer les main events, puisque là ça allait à 100 à l'heure, tout le monde était à sa place, même Samoa Joe qui débarque en monstre pour cacher le spectacle, et ben c'était cool aussi. Voilà, du coup là on est reparti, on a une intrigue pour le titre intercontinental, on a une rivalité qui se fait entre Bray Wyatt et Finn Balor, et on a la suite des opérations entre Seth Rollins et Samoa Joe, tout ça dans un match super dense, super intense, qui a mis le feu au public. Le public était très bon, hein, le public de Sacramento.
Sacré public de Sacramento.
Ouais, très dynamique. Ça donnait un show qui était plutôt pas mal, et ben d'ailleurs on va faire le point sur le show, parce que c'est l'heure du mot de la fin, le top, le flop, la note. Irem,
alors mon top, je vais le donner au Miz, il y a le main event, mais en particulier au Miz, un pour sa promo, vraiment, on en a déjà parlé, quoi. Il a vraiment mis le feu, et je pense qu'en plus il aide un peu les autres à se chauffer, tu vois. C'est vraiment lui qui pousse Seth et Finn Balor à travailler justement leur répartie, etc. Donc ça c'était super, et en plus, eh ben, il a participé à ce main event dont on vient de parler, où justement j'ai trouvé qu'il avait particulièrement brillé, parce que c'est quand même des trois, c'est lui qui est censé être le moins fort, et pourtant c'est lui qui en sort vainqueur. Et j'ai trouvé, malgré effectivement les deux interventions, histoire de justifier que les gentils ont perdu, Il a été montré très résilient, comme je l'ai dit, pour moi, c'était vraiment, c'est mon top. Mon flop, à vrai dire, j'en ai pas vraiment, pas de gros flop pour moi, parce que c'était vraiment un superbe épisode. Je serais tenté de le donner un peu à Bailey, qui, voilà, toujours ce petit souci là, que ce soit dans ses promos ou dans son jeu enfin, son acting. Alors après, est-ce que c'est juste, j'accroche pas au personnage, est-ce que. J'en sais trop rien, je sais plus trop en fait quoi vraiment penser de Bailey. Au début c'était de l'agacement, mais là je commence un peu à en avoir plus rien à faire d'elle. C'est un peu une cause perdue. Et ça m'énerve parce que j'ai pas envie que ce soit une cause perdue. Au contraire. Mais bon, voilà, il faut. Voilà. Voilà, c'est pas perdu, mais c'est pas gagné, quoi.
C'est ça, mais c'est peut-être la rivalité qui peut la replacer sur la carte, hein. On ne sait pas.
Exactement, exactement. Ouais, carrément. Je pense qu'une rivalité comment dire, avec Alexa Bliss sera plus bénéfique pour elle qu'une rivalité avec Sasha Banks, qui est jamais partie et qui on a toujours joué l'entre-deux, joué l'autre tiède. Et Bailey, il faut que ça soit des rivalités où de cœur, quoi, où vraiment elle est face à une heel qui la met face à ce qu'elle est, et ce qui avait donné cette super rivalité à NXT. Donc voilà, refaire ça avec quelqu'un d'autre, finalement, c'est peut-être la meilleure chose. Hein. Ce qu'on avait dit la dernière fois, Alexa Bliss a piqué la place de Sasha Banks.
Bah, carrément.
Donc voilà. Et ma note, écoute, je me vais mettre un bon 4. C'était vraiment un show solide. J'ai beaucoup aimé le booking en fait. Trouver ça très intelligent, très intelligent les rivalités croisées, cette place qu'on a remise pour le titre intercontinental qui avait déjà une place privilégiée à SmackDown, qui l'a toujours à Raw. Ouais, vraiment un super épisode qui moi m'a enchanté. Donc ouais, un bon 4. C'est 4.
C'est 4 pour l'ère du titre intermédiaire. Dire l'ère du titre intercontinental à Raw. On est sur une bonne lancée, hein, effectivement, là, depuis WrestleMania, décidément, les bons shows s'enchaînent. Alors, du coup, bah, c'est difficile de trouver un flop. Je vais le donner à Dean Ambrose qui pique le boulot de Charlie Caruso, ça c'est pas possible. Mais c'est vraiment de mauvaise foi, hein, parce que c'était quand même très rigolo ces petits segments. Le top, je vais le mettre, je vais le donner au main event qui était extraordinaire et super efficace, construit. Finaliser comme ça un truc.
Aux petits oignons.
C'était donc petits oignons, voilà, c'est ça que je cherchais comme expression. Voilà, hein, ça fait le boulot dans tous les sens, c'est-à-dire que ça construit les intrigues et ça donne un match super et tout le monde est valorisé dedans, donc c'est ce qu'on a envie de voir. Donc voilà, c'est ça le top. Et puis je vais aussi mettre un 4, hein, parce que c'est mérité. Un bon 4 pour ce show du 1er mai, hein, la fête du travail, et
Mais ils ont bien travaillé, justement.
du bon boulot, exactement. Voilà ce qu'il en était de ce Raw. Alors, avant de passer à l'auto-promo, on va faire le petit courrier des lecteurs, hein,
Ah
petit
oui.
passage de fin d'émission. Alors, un big up à Jérudé, qui poste souvent, hein, des commentaires sur YouTube. Donc, qui nous explique, hein, qu'il apprécie Dean Ambrose en version comique, la sidekick de Y2J également. Et qui trouve ça cool, comme IRM, que les catcheurs ne soient pas amnésiques et se souviennent de leurs anciennes rivalités. Moi, je suis plutôt d'accord, effectivement. Ça donne de l'épaisseur aux rivalités. Il s'inquiétait pour l'avenir de Strowman aussi, pour une potentielle défaite à Payback. Ben, je pense qu'il doit être rassuré, hein, maintenant.
Oui.
Strowman a gagné. Iron Diaki Iron nous demande notre avis sur le finisher de Seth Rollins. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, ce nouveau finisher là.
Écoute, j'en ai entendu parler, mais je l'ai toujours pas vu.
Tu l'as toujours pas vu.
Mais non, il l'a placé quand, ce nouveau finisher?
La semaine dernière, mais il n'a pas pu le placer dans ce match-là.
D'accord. Mais écoute.
Donc une petite danse, hein, où ça se finit par un coup de genou dans la face.
Petite danse.
C'est ça, tu nous donneras ton avis quand tu l'auras vu. Moi j'aime bien. Donc c'est voilà, bon, c'est piqué à Kenny Omega,
Ah.
mais c'est pas grave, hein, ça arrive souvent qu'on pique les prises, hein, au
Oui, CM
chapeauté.
Punk,
Hein,
voilà.
c'est ça, CM Punk qui avait piqué son
Daniel Bryan.
Voilà, John Cena, hein, le STF, il a piqué à Monsieur Chaudeau. Voilà, j'avais d'autres exemples en tête.
Bon, écoute.
Bah, même le sharpshooter de Bret Hart, c'est piqué à Ricky Chouchou. Ricky
Ricky
Chouchou. Ricky
Chouchou,
Chouchou.
ton préféré.
Ouais. Voilà, Masahiro Chono pour le
Ah bah tu sais, en fait
STF.
c'est comme les tous ces films là qu'on refait, voilà, que des films japonais fonctionnent, et ben les Américains refont le même film
Ça,
à la sauce
ça.
américaine.
Et du coup, c'est moi, je suis bien content que Seth Rollins utilise plus le
Ah oh,
pedigree.
c'était tellement stupide qu'il continue à l'utiliser après
Ouais.
WrestleMania.
Carrément. Maintenant, je préférerais peut-être le voir terminer vraiment les matchs sur un Frog Splash ou un Phoenix Splash, un truc comme ça. Mais bon, c'est sympa aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, il apprécie aussi Dean Ambrose, hein, Iron Jackie, Jackie
Ah, bah
Iron.
le fan club de Dean Ambrose s'agrandit, hein.
C'est ça. Et il nous annonce aussi la signature de Crazy Steve à la WWE,
Ah
qui
bon?
voit bien s'associer à Bray Wyatt et rentrer en rivalité avec Broken Matt.
Ah oui, mais ça,
Alors,
c'est du domaine du souhait.
c'est ça, ben, je pense, hein, parce que, ou alors c'est des rumeurs qui vont sur Internet, alors faut pas croire tout ce qu'on lit, hein, non plus. Hein, il boucle pas les choses comme ça à l'avance. Enfin, du moins, je ne pense pas. Hein. Ouais, donc Crazy Steve de la TNA qui était en équipe avec Abyss
Abyss et
dans
puis
l'équipe.
Rosemary.
Voilà, Rosemary de la
DK.
TK, c'est ça. Bon, je sais pas trop ce que peut apporter Crazy Steve à la WWE, mais bon, on verra bien. C'est vrai qu'il a un personnage qui est bien posé, qui peut fonctionner. Après. Dans l'in-ring, c'est assez commun. Mais bon, hein, on ne sait jamais.
Faut
Hein.
donner sa chance à tout le monde.
C'est ça. Il y a un autre couple qui va arriver. Ben, que j'ai oublié son nom. Ben, les deux, tiens, j'ai oublié leur nom.
Cody
Qui
Rhodes
était
et Madame Cody.
The Miracle,
Ah,
Mike Bennett. Voilà,
Mike
Mike Bennett.
Bennett, oui.
Et comment elle s'appelait, la gonzesse? Qui était à la WWE avant.
Ah, je ne sais plus, elle est rousse, c'est tout ce que je me souviens.
Voilà. Bon, je sais pas pourquoi ils les ont signés, ils sont nuls les deux là. Hein. Plus ça va faire redondant avec le Miz et Maryse.
Oui, non, aucun intérêt.
Aucun intérêt. Pareil qu'ils vont arriver tout de suite dans le roster principal.
Ah bon?
Ouais,
Oh.
ouais, ouais. Alors ça, je suis moyennement emballé. J'espère qu'ils iront à Main Event. Bon, l'avenir nous dira. Hein. On est peut-être mauvaise langue. Ça va peut-être un mec génial, la nouvelle méga star de la WWE. Mais j'ai des gros doutes hein, quand même. Et on a aussi Camille Bourg qui nous écrit
Oh
et
oui, il écrit beaucoup, Camille Bourg.
très souvent, hein, c'est notre plus fidèle auditeur, et donc il est en grande partie d'accord avec notre analyse.
Bon bah voilà.
Voilà. On se demande pourquoi Kurt Hawkins est toujours là, bah,
Parce qu'il faut des Kurt Hawkins.
c'est ça,
Il en faut.
exactement. Tout comme des Titus O'Neil, hein, dont il parle aussi, et Apollo Crews, pourquoi il ne le rebooke pas, ben, c'est une bonne question. Voilà, mais il en faut aussi des comme ça, hein, c'est tout. Et il
Faut de
n'aime pas
tout
le
pour faire un
drifter.
monde.
C'est ça, il n'aime pas le drifter.
Pourtant, il
Alors
n'a
ça,
pas encore fait grand-chose.
c'est ça, donnons-lui le bénéfice
C'est
du
du
doute, c'est bon.
déni, hein, déni de sale gueule, là.
Voilà. Voilà, et puis rapidement, son flop, c'est les plans du club. Bon, ça, c'est un peu normal parce que les plans du club, ça tombe toujours à l'eau. Et il est plutôt content de la gestion de Bray Wyatt et de Finn Balor, donc ça, on est d'accord.
Oui.
Voilà, hein, n'hésitez pas à nous écrire. On lit vos commentaires avec attention, on y répond autant que possible. Et donc, bah, c'est sur YouTube hein, que vous pouvez nous voir, hein, puisque maintenant, c'est l'heure de l'autopromo, la chaîne des Cahiers du Catch. On est aussi sur iTunes. On est aussi sur PodCloud. Vous avez aussi le Twitter Catch Up CDC, le Facebook Catch Up CDC. Vous venez aussi sur les cahiers du catch. Hein. Faut venir maintenant hein, sur le forum. Vous vous inscrivez. Ça prend 5 minutes. Hein, et puis vous venez poser votre avis sur le forum, sur les articles qui sont postés. Mettez-nous des pouces. Abonnez-vous dans les temps. Et en particulier le supplément SmackDown hein, qui va arriver bientôt avec IRM aux commandes.
Ouais,
Un mec super.
je serai peut-être sur l'autre côté de l'écran, je ne sais pas, on verra.
C'est ça. Un jour à droite, un jour à gauche. À savoir. Voilà. Et ben voilà, on arrive au bout. Hein. Moi. Je te remercie beaucoup, IRM, d'être venu.
Bah écoute, c'est un plaisir de venir faire un petit coucou là à Catch Up Pro. Et ouais, merci beaucoup de m'avoir invité.
J'essaierai de venir au supplément, hein, pour
Oh,
vous
bah
embêter.
tu es le bienvenu. On fera un triple frites.
C'est ça, un triple frite au supplément. Et puis, bah voilà, on a fait le tour. Donc, les amis, moi, je vous souhaite une excellente semaine pleine de catch. Ciao, ciao! J'étais indisposé des narines là pendant le show là.